Crime et justice.
Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, il est censé être avec nous, physiquement et psychologiquement. Alors, est-ce qu'il est là?
Présent, mon caporal, physiquement.
Bon, parfait. Donc, un mot sur Harvey Weinstein, parce que il y a des détails là, qui s'ajoutent au verdict de culpabilité de notre ami Weinstein.
Oui, trois mots même, en fait. Harvey Weinstein, on le sait maintenant, a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre ses victimes, des artistes. Par contre, le chef d'accusation, là, où il devenait un prédateur sexuel et tout ça aurait pu l'envoyer en prison pour la vie, lui n'a pas été retenu, n'a pas été reconnu coupable de ce chef d'accusation dont il avait été accusé. Alors, petite recension des écrits là-dessus. Il y a là, évidemment la fameuse une du New York Post qui est toujours intéressante à regarder, hein, le tabloïd, l'un des tabloïds les plus lus des États-Unis, de la région de New York, qui titre Harve Time, donc pour Hard Time, mais Harve pour Harvey Weinstein. Et c'est intéressant d'aller voir l'article d'opinion de Maureen Callahan, qui est une chroniqueuse de tabloïd avec une finesse là d'esprit qui est remarquée par tous ses collègues. Alors, est-ce qu'elle vient dire dans sa chronique, puis je pense qu'on l'a entendu ailleurs aussi, mais si vous voulez la lire, elle l'appuie énormément. Elle vient, si tu veux, dire que le verdict de Weinstein vient d'ébranler le mythe de la victime de viol parfaite. Ce qu'elle dit dans tout ça est assez pertinent. Elle dit c'est très très difficile de mesurer les conséquences qui ont été mises à l'avant par le mouvement MeToo, mais c'est aussi très difficile à partir de maintenant, et ce sera très difficile de tenir des procès maintenant que Harvey Weinstein a été reconnu coupable en traitant les victimes d'une façon comme elles étaient traitées avant. C'est-à-dire qu'on a joué énormément sur la carte des relations consensuelles avec Harvey Weinstein que les victimes ont poursuivi dans le temps. Ici, au Canada, on rappelle que souvent, une relation consensuelle avec son agresseur qui s'étend dans le temps, donc où il y a un continuum, ça serait assez souvent pour exonérer l'accusé de toute accusation, justement. Alors, Weinstein, en tout cas aux États-Unis, et c'était comme ça aussi aux États-Unis, vient jeter maintenant, le jugement Weinstein va venir jeter un éclairage différent, c'est-à-dire que ce syndrome qui s'apparente à un syndrome de Stockholm, même si tu veux, où la victime va se rapprocher de son agresseur après les faits, surtout lorsque c'est un homme et un producteur influent, dans le cas de Weinstein, exemple, maintenant, ça va passer le test des tribunaux, puis on pourra plus discréditer une victime, une femme, qui va se rapprocher de son agresseur après les faits. Alors, c'est intéressant, sa chronique, pour cette
raison-là. Parce que la victime aurait envoyé un message sympathique à son agresseur pour essayer d'entretenir des relations. Parce que là, ça, on l'a vu souvent, là, et souvent, ça a été utilisé contre la victime.
Ben justement, puis ça a été utilisé en procès, puis même à Weinstein, au procès de Weinstein, on l'a tenté devant le tribunal, et ça n'a pas fonctionné. Alors, pour les victimes, d'abord, ça a deux effets, dit-on, ça libère la parole encore plus, mais aussi, ça redonne confiance dans le processus judiciaire où cette épée de Damoclès qui pèse sur elle pourra, disons, être un peu moins pesante. Tout ça devient intéressant. Le New Yorker fait paraître un article aussi sur les espions qui ont été embauchés, l'armée d'espions, en fait, qui a été embauchée par Harvey Weinstein avant et pendant le procès pour épier les journalistes comme Ronan Farrow. C'est lui qui a, si tu veux, après des années et des années d'insuccès, réussi à publier cet article-là, entre autres dans le New Yorker, puis ensuite avec la collaboration du New York Times. Alors, dans cet article, on raconte que Weinstein avait embauché des agents du Mossad, des agents du Mossad, des ex-agents du Mossad, donc qui sont rompus à des techniques de surveillance extrêmement précises pour savoir qu'est-ce que ces victimes faisaient, puis pour savoir aussi qu'est-ce que les journalistes qui suivaient l'affaire faisaient. Et il y a notamment un livre qui a été écrit par Ronan Farrow là-dessus, qui est sorti il y a pas si longtemps et que moi je vais me procurer. Je me rappelle plus du titre notamment, mais il semble qu'il décrive dans ça très bien les tentatives d'espionnage dont lui a été victime, mais dont son chum aussi, qui lui resterait à Los Angeles, a été victime. Il semble qu'il est arrivé des trucs assez spéciaux avec leur téléphone, entre autres.
Et, bon, on s'en reparlera.
Ça sera ma lecture de semaine de relâche.
Parfait. Il y a le cas d'Eustachio Galaise là, qui s'aggrave.
Oui, c'est que là, il a été accusé du meurtre prémédité de Marianne Lévesque. Alors, il s'est aggravé pas mal. Hein? Alors, on se rappelle que Galaise aurait tué dans une chambre de motel de Sainte-Foy la jeune Marilyn Galaise, Marilyn Lévesque plutôt, qui était une masseuse érotique. Il aurait fait venir à plusieurs reprises pour lui prodiguer certains services et ce soir-là, ben il l'a tué. Alors la suite des procédures est fixée pour jeudi prochain, mais en attendant, lui, il a déjà comparu parce que le ministère public, ce qu'il a fait, c'est dans le fond, il a demandé un arrêt des procédures sur l'accusation initiale. L'accusation initiale, c'est un meurtre non prémédité. On a changé l'accusation de meurtre non prémédité pour meurtre prémédité. Évidemment, l'explication est dans le nom même du chef d'accusation. On a trouvé des événements qui indiquaient, ou des éléments de preuve plutôt, qui indiquaient que Galaise avait planifié son geste et qu'il n'a peut-être pas agi là sous une colère subite ou a été subitement contrarié par quelque chose. Il avait planifié son geste selon la poursuite. Alors, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup le verdict aussi quand tu es accusé et reconnu coupable de meurtre prémédité. Là, c'est prison à vie dans ce cas-là.
Et suivi à propos de l'architecte Guy Huot qui travaillait pour Hydro-Québec jusqu'à tout récemment.
Oui, alors que ma boîte de courriel déborde toujours, je veux juste te dire, je trouve ça intéressant ce que ça a suscité comme... Ben d'abord, comme débat, comme réaction aussi, mais ça délie certaines langues et je voulais simplement remercier ceux qui ont décidé de nous écrire parce que on pense qu'on commence à percer tranquillement le mystère Hydro-Québec et on pense que le cas de Monsieur Guy Huot, cet architecte qui a reçu une enveloppe d'argent qui en aurait reçu beaucoup au cours des 20 dernières années, évidemment, n'est pas le seul. Et il y a des courriels qui viennent nous confirmer qu'on est sur la bonne voie d'en trouver d'autres. Alors, c'est intéressant parce que jamais on avait, disons, cette frange d'Hydro-Québec, jamais on l'avait vu dépasser comme elle dépasse là. Et laisse-moi dire que les gens ont beaucoup d'intérêt à parler maintenant que tout ça a été dévoilé. Alors, ça a été utile aussi, cette nouvelle-là, pour ce simple fait.
On va voir ce que l'UPAC fait avec tout ça et aussi Éric Martel, patron d'Hydro-Québec. Félix Séguin, merci. On se reparle demain.